Où commence-t-on?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et cette semaine, je cède la parole à Simon Laperrière qui s'est récemment entretenu avec le cinéaste Félix Dufour-Laperrière. Leur conversation a porté sur Archipel, le plus récent long-métrage du cinéaste qui se présente comme une œuvre hybride à la frontière entre le documentaire et l'animation et qui explore les notions d'histoire et de territoire. Je vous laisse donc en leur compagnie en vous souhaitant une bonne écoute.
Félix Dufour-Laperrière, bonjour.
Bonjour.
Ton film Archipel est présentement en salle à Montréal. Merci de nous accorder cet entretien au podcast de 24 images. On va peut-être commencer en affirmant qu'il n'y a pas présentement de conflit d'intérêts. Nous sommes tous les deux des Laperrière, mais nous ne sommes pas de la même famille. On n'a jamais célébré l'ensemble, mais n'en demeure pas moins que Archipel est un film familial d'une certaine manière parce qu'il implique ton frère à la production et on l'a su lors de la clôture au Festival du Nouveau Cinéma, ton film étant évidemment le film de clôture, que ta fille avait participé à l'animation.
Et puis ma compagne Marie-Ève est, comme je le disais à la présentation du film, et ma première lectrice et mon dernier recours. Donc le film garde la trace aussi de nos échanges. C'est un film, pour ceux qui le verront, c'est un film à la fois très intime, c'est un geste au départ très intime, capricieux comme le sont toutes les affections. C'est-à-dire que c'est au départ plein de choses que j'aime. Donc ça va de ma fille, ma grand-mère à Hubert Aquin et Charlevoix. Mais dans le dispositif où on a voulu réintroduire toute une part d'improvisation dans le processus d'animation qui est autrement plutôt rationnel et contrôlé, dans ce processus-là, il y a toute une part de collectif qui est intervenue parce que les animatrices et les animateurs qui ont fabriqué le film avec moi ont eu une grande autonomie puis ont vraiment mis du leur dans le film. Donc il y a une partie à la fois d'un geste très intime qui est devenu un geste collectif aussi. Ces allers-retours-là, on fait la facture de finale du film.
Improvisation et animation. On dirait, je pense que pour plusieurs auditeurs, on va se demander comment ce processus peut avoir lieu, parce que généralement, on attribue l'animation à un type de mise en scène, disons, très calculé. Quel est, ton approche du médium?
Mais surtout dans des formes longues, là, puis avec les restrictions budgétaires qui viennent avec le cinéma d'auteur, disons, le cinéma indépendant, l'animation doit être souvent très planifiée. J'ai fait mon premier long métrage qui s'appelait Villeneuve, a été vraiment un geste où, par incertitude aussi, par insécurité, j'ai essayé de beaucoup contrôler. J'ai fait tous les dessins clés, tout ce qu'on appelle la mise en place, le layout. J'ai été beaucoup dans le contrôle. Et puis pour Archipel, je voulais avoir tout autre esprit, davantage comme un artiste visuel ou un peintre rentre en atelier, fabrique des images. Je voulais qu'on puisse rentrer en atelier puis retrouver un peu de légèreté et d'immédiateté dans ce processus-là d'animation qui est souvent assez lourd parce que technique, parce que coûteux, parce que laborieux puis exigeant dans le temps. J'ai évidemment travaillé avec des animatrices et des animateurs chevronnés que je connais, avec qui on a déjà travaillé, en qui j'ai une grande confiance, puis j'ai beaucoup d'affection. Et puis si certaines sections du film ont été données comme on fait un casting ou une audition, c'est-à-dire on sait que telle personne dessine dans les bars, donc je peux lui donner telle séquence, telle personne fait tel truc, tel type de visuel, on peut lui donner telle séquence. D'autres, il y avait une équipe disons, de peut-être 5-6 personnes plus dont la garde rapprochée, qui, eux, on s'est partagé le travail. Donc, ils et elles ont reçu des petites machines d'animation. Donc, un extrait de scénario, des notes, des images de référence, quelques images, quelques exemples visuels. Et puis, ils partaient avec ça. Ce qui est agréable, c'est que c'est un film qui a été fait de façon très horizontale. Tout le monde était payé le même taux. Puis il y avait une grande. Il reposait beaucoup sur l'autonomie de ces artisanes et de ces artisans parce que on était sur un budget, disons, de gros courts-métrages, pour tout dire. Donc, pour fabriquer un long-métrage d'animation, c'était assez serré. Et notre parti pris, c'est qu'on ne regarde pas en arrière, on le fabrique, on avance. Évidemment, moi, je me suis retrouvé à passer avec des corrections sur After Effects la nuit confinée avec mes deux enfants, mais la fabrication du film s'est faite dans un geste, vraiment dans un geste d'atelier.
Et le film est très hétérogène, autant dans sa forme que dans son propos. C'est un film qui est vraiment, qu'on pourrait presque appeler un film choral d'une certaine manière. Comment déterminer quelle forme d'animation va illustrer une idée ou un thème?
C'est une très bonne question. La mise en scène en animation repose beaucoup sur la technique utilisée. Parce que, exemple grossier, c'est pas avec un grand pinceau que tu vas dessiner la finesse d'une ride d'un œil. C'est un geste plus ample qui permet une vitalité puis un rapport graphique plus contrasté. Puis une pointe fine permet donc des détails, de l'ornementation plus raffinée. Donc la technique d'animation, puis le type de mouvement aussi dépend beaucoup de la technique qui est utilisée, le type de mouvement possible, le contrôle sur le type de mouvement qu'on va rendre à l'écran. Donc il y a eu une question de mise en scène pour sélectionner évidemment quelle séquence allait être mise en image de telle façon. Il y a eu beaucoup de plaisir aussi pour être très honnête, c'était des images en latence comme le processus d'animation est assez long, il y a plein de dispositifs de fabrication d'images que je laisse un peu de côté, que je ne peux pas explorer. Et là, je me suis fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que j'ai comme tout vidé mes images en latence. Puis j'étais ravi de voir aussi que les animatrices et les animateurs s'est réappropriaient et puis en faisant l'amener ailleurs. Donc ça a été vraiment une espèce de souci d'expressivité de ce que la technique allait permettre. Et le plaisir de fabriquer des images aussi.
Donc, il y avait une place laissée à l'intuition, ce qui me semble tout de même assez rare en animation, surtout quand vient le temps de produire un long-métrage.
En effet, c'est assez rare. C'est l'esprit qui préside souvent la fabrication des courts-métrages, qui est à mon sens la valeur étalon de l'animation. C'est l'aide de noblesse. L'animation le trouve souvent dans le court-métrage d'auteur parce que c'est souvent visuellement très libre, fabriqué par une personne ou deux. C'est souvent très contrôlé ou très libre comme dispositif. Le pari d'Archipel, c'est d'essayer de ramener un petit peu de cette liberté-là, de cette immédiateté-là dans un contexte, dans un format plus long, avec un contexte de fabrication qui correspond à la fabrication d'un long-métrage. C'est aussi le propos du film est là-dessus. Le propos du film est pluriel, c'est-à-dire que c'est ce que ça tente de documenter. C'est ce qui est paradoxal, c'est que c'est à la fois une fiction et un documentaire. Ça utilise des outils fictionnels pour documenter quelque chose d'intangible et ça réinsère de la fiction dans des documents qui sinon, on ne serait pas capable de rendre compte justement d'un réel ou de la pluralité de ce réel-là. Donc, le film joue dans. J'ai l'impression que c'était cohérent avec ce que le film tâchait de cerner.
Et donc, la production a elle-même été une traversée à l'image de ce voyage au cœur du Saint-Laurent auquel tu nous convoques.
Une traversée déambulatoire, comme l'écriture du scénario l'avait été aussi, de façon assez déambulatoire, assez libre. C'est un film, en toute honnêteté, qui est venu comme un cadeau. Il s'est écrit dans la joie. Il s'est financé avec une facilité déconcertante pour un projet, somme toute, assez exploratoire. Et ça, je le dois à ma compagne qui m'avait dit que je n'allais pas être capable, à son avis, au comparatif, de le financer comme fiction. Parce que moi, je m'en allais en fiction. C'est parce que c'est fictionnel, beaucoup. Ce qui était une faiblesse en fiction est devenu une force dans le documentaire parce qu'on avait un dossier, j'avais un scénario complet, beaucoup d'images. Donc, j'avais un dossier très complet. Le film s'est étonnamment financé très, très facilement, vu aussi son budget modeste. Et puis, c'est venu comme un cadeau. Il s'est fait dans la joie parce que j'ai travaillé avec des gens que j'apprécie beaucoup.
Depuis la sortie de Valse avec Bachir, qui a vraiment fait, à mes yeux, le coup d'une révélation au Festival de Cannes, j'ai l'impression que le préjugé voulant que l'animation ne peut que raconter des récits pour enfants s'est essoufflé. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison?
Je pense que la brèche a été ouverte, en effet. Puis je pense, si ce n'était de l'effondrement économique, de l'effondrement industriel du cinéma, puisque l'animation coûte cher, on est un peu lié, cette brèche-là pourrait en faire une grande ouverture. Malheureusement, moi, si je suis pas du tout chagrin de l'effondrement de l'industrie du cinéma. Je pleurerai pas sur l'effondrement de la franchise X-Men. Je vais danser sur les ruines. Et je trouve que, comme forme d'art, le cinéma conserve toute sa pertinence. Il y a une Il y a un rapport à l'image, au son, il y a un rapport à la fiction et au documentaire qui est très, très, je trouve, vibrant dans le cinéma mondial actuel, puis c'est réjouissant. Donc, comme format d'art, elle conserve toute sa vitalité, sa pertinence. C'est le modèle économique qui est en train de s'effondrer. Nous, on se retrouve dans une équation difficile parce que l'animation, ça coûte cher. Donc, moi le cinéma que j'affectionne, je ne peux pas le faire avec les mêmes moyens en animation parce que je coûte plus cher que le même dispositif, disons, ou documentaire ou fictionnel, très, très léger, très artisanal. Moi, il faut que j'aille quand même un petit peu plus d'argent en animation parce que ça coûte cher. Donc, c'est le défi, là.
Et qu'est-ce que l'animation apporte au documentaire et vice-versa?
C'est, pour moi, ce qui est dans le cas d'Archipel, c'est que ce qu'on veut cerner, c'est quelque chose d'intangible. C'est un sentiment d'appartenance ou de chez soi, paradoxal à certains égards. Et l'idée d'un territoire qui est à la fois concret, réel, donc sur lequel on a des documents et tout ça, mais un territoire assez abstrait, celui du langage, du désir. Ça demeure un fait réel qu'on peut documenter, mais cette réalité-là, elle est évanescente. Donc l'animation, qui est un artifice, qui est toujours un artifice, qui se donne à voir comme tel, comme artifice, est un outil assez puissant. Au niveau de la mise en scène, c'est un ravissement. Une fois qu'on a oublié le mal de dos parce qu'on est penché sur la table à dessin, c'est un ravissement. Faire de la mise en scène avec l'animation, c'est très puissant. On a le langage du cinéma, celui évidemment du son, du montage, tout ça. Mais on a les stratégies aussi des arts visuels. C'est très puissant.
Archipel s'appuie sur un important travail de documentation que tu as déjà mentionné toi-même. Comment approches-tu l'image d'archive?
De façon très capricieuse, c'est très libre. Je suis bibliophile, j'ai plein de livres, donc je collectionne plein de... C'est même pas des collections, parce que c'est désordonné, là, mais je vais... Surtout avant d'avoir mes deux enfants, je faisais beaucoup, beaucoup de librairies usagées, donc j'avais... Je me prenais d'affection pour des objets. J'ai un âme de collectionneur sans en avoir la discipline. Puis donc, j'ai fait le ménage de mes archives un peu, puis de toutes les boîtes. Et puis, ça faisait quand même, j'avais l'impression que ça faisait un territoire imaginaire cela dit, et c'est le projet d'Archipel, ne rendait pas compte avec justesse à la fois du réel, mais aussi de ses propres dispositifs. L'archive principale qui est Structure Archipel, qui est un document de 1942 produit par la province de Québec, très emphatique, c'est duplessiste et emphatique, est à la fois... Il se trahit lui-même. On est sur l'île aux coudes, on dit que rien n'a changé, mais visiblement, le moulin qui est dans le cadre, il ne fonctionne plus. Donc déjà, en 1942, c'est faux, le rénoncé se trahit lui-même, c'est très mis en scène, il y a quelque chose qui s'effondre. Ça n'empêche pas l'image d'être assez émouvante quand même, puis d'avoir le caractère mystérieux des choses qui ont disparu. Mais le projet d'Archipel, c'est de remettre de l'attention comme ça, de réintroduire de la nouveauté, puis de rappeler qu'il y a quelque chose de sous-jacent à tout ça, puis il y a un réel passé, présent et avenir là, qui peut émerger. L'animation nous permet justement de faire émerger ça.
Et comment as-tu déniché ce document extraordinaire qui est ce moyen? C'est un moyen métrage?
Oui, c'est un pur hasard. Et j'avais écrit déjà le scénario. Le scénario était écrit. Et puis dans mes recherches, Archives Canada. Je suis tombé là-dessus. La chance, en plus, c'est que c'est tombé dans le domaine public l'année avant que je le découvre. Et puis, Archives Canada, on a fait une numérisation d'assez belle qualité déjà, qui est dans le domaine public. Donc, pour quelqu'un de fauché, c'est un cadeau.
Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment la façon avec laquelle tu intègres ce film dans Archipel, il devient rapidement un fil conducteur. On dirait que tu le suis d'une certaine manière, mais sans non plus le critiquer malgré on pourrait dire que le narrateur principalement peut être condescendant par moment.
Ah, pleinement, mais en même temps, le projet c'est que le film, comment je dirais, le film le laisse se trahir lui-même, puis après ça l'interrompt, le brise, le renverse. Il y a plein de jeux qui sont plus des jeux formels. Qui plus est, la narratrice, la femme du film, reprend à son compte certains segments, puis les réorganise, puis réénonce différemment des bouts de la narration d'époque. Il y a quelque chose de mis sous tension, c'est-à-dire qu'on ne l'accepte pas comme un document qui rend vraiment compte du réel. C'est, on l'utilise comme une archive, quelque chose de passé. Puis le projet du film, c'est quand même d'insérer à la fois de la nouveauté, de le mettre sous tension.
J'ai l'impression aussi que l'inclusion de ce film dans Archipel te permet de démentir un préjugé envers le documentaire cette fois-ci, comme quoi un documentaire n'a pas forcément à être pédagogique, il peut aussi être poétique. Et ça, autant on serait porté à croire que, bon, en 2021, ce serait devenu un acquis, alors que c'est pas tout à fait le cas.
C'est la longue lutte, hein, aussi. C'est la lutte de format aussi. Hein. Il y a un documentaire plus télévisuel, il y a un documentaire donc, qui se réclame, disons, du cinéma d'auteur. Moi, parmi ce que je préfère dans le cinéma actuel, c'est quand même le documentaire d'auteur qui fictionnalise aussi le réel, qui est hybride et puis qui rencontre comme ça avec des outils proprement cinématographiques. Il y a quelque chose de très, très, très dans la rencontre entre certains outils fictionnels puis les capacités du documentaire, il y a quelque chose de très cinéma. C'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est sûrement pas dans la littérature, on n'est pas dans le reportage, on n'est pas dans le factuel. C'est un espace de gestion des images, du sens, de la parole qui est vraiment celui du cinéma. Moi, ça m'intéresse. Je trouve qu'il y a une actualité à ça, puis qu'il y a une vitalité en plus dans les œuvres qu'on fréquente. Ça m'intéresse beaucoup. Venant de l'animation, moi, j'ai toujours un rapport au réel où on manipule beaucoup nos images. Donc, je sais que le réel est manipulable, particulièrement là, dans ce cas-ci. J'ai fait un peu de documentaire auparavant, puis je me rends compte a posteriori qu'il y a beaucoup de réflexes d'animateurs dans la façon de regarder, de cadrer, d'extraire un objet de son contexte. C'est des formations aussi d'animateurs qui sont habitués de pouvoir contrôler, manipuler plusieurs paramètres de l'image.
C'est super intéressant ce que tu dis parce que quand je te demandais qu'est-ce que l'animation peut apporter au documentaire, ça pourrait être de démontrer l'objectivité qui est brandie, ou plutôt qui est accordée au documentaire, finalement, est un leurre. Si on voyait un film de Michael Moore en animation, probablement, peut-être qu'on le verrait, on s'en rendrait plus compte de ça.
Du leurre, de la captation du réel. Après ça, il y a une force aussi à... Moi, je me rappelle toujours, avant d'aller tourner Transatlantique, qui est mon premier long-métrage, j'avais demandé à Sylvain L'Espérance de me donner des conseils, parce que c'était ma première expérience documentaire, puis il m'avait dit de donner quelques conseils, dont que je me souviendrai toujours. De toute façon, les gens savent comment tu les regardes. Et donc, les gens vont le savoir comment tu les regardes, ça va paraître à l'écran, puis les spectateurs vont savoir comment tu as regardé ceux qui... Donc, c'est pas tant le réel que le regard qui joue, tu sais, qui est au cœur du documentaire. Puis c'est intéressant. C'est parce que ça me semble être là vraiment un vrai espace propre au documentaire, celui du regard posé puis du regard ensuite transmis au spectateur, parce que ça me semble être le vrai espace du documentaire plus que le compte-rendu d'informations qui ça peut être ça aussi, mais il y a aussi il y a des bons articles de journaux aussi.
Oui, absolument, et autant je pense qu'on peut tirer beaucoup d'informations de la part d'Archipel, ne serait-ce qu'en côtoyant les images d'archives, les images du Québec que tu nous donnes à voir, mais il n'y a pas une volonté qui est ouvertement pédagogique, comme c'est le cas avec le documentaire auquel tu reviens constamment à travers le montage.
Tout à fait. Puis parce que c'est un autre territoire, que c'est un territoire plus complexe. Plus éclaté, fragmentaire, puis qui est à la fois réel puis à la fois fantasmé. Quand on aime un lieu, on l'aime pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il représente, pour certains souvenirs. C'est très capricieux, je trouve, l'affection qu'on a. Comme la mémoire est très capricieuse, il y a des choses dont on souhaite moins se rappeler, il y a des choses dont on garde un souvenir très vif. Et puis, le projet d'Archipel, c'est un peu ça, c'est d'assumer, en partie par la densité, c'est un film assez dense, assez bavard aussi, volontairement, c'est-à-dire que... À un certain moment, je me suis dit, bon, quel pari je soutiens, c'est pas une forme pure puis équilibrée, c'est un geste plutôt qui est déséquilibré, qui n'est pas dans la mesure. Et puis là, j'ai essayé d'assumer. Mon travail, j'espère que, je sais pas jusqu'à quel point il réussit, c'est de rendre tout ça quand même enlevant là, ou séduisant à certains égards ou que permettre de soutenir l'intérêt.
À ce sujet, c'est une question que je voulais te poser. J'ai l'impression que chaque thème que tu abordes dans Archipel s'accompagne d'un versant qui est inévitablement politique. Si on évoque la géographie, on soulève la question du territoire, la mémoire, renvoie à l'oubli. Quel a été ton point de repère pour t'orienter à travers ces considérations-là?
Je suis d'abord parti de mes convictions profondes. Moi, je suis un indépendantiste de gauche, en fait, là, qui s'inscrit dans une tradition qui est en changement, puis c'est bien, en fait. Puis ce qui m'intéresse, moi, c'est le Québec de demain matin, en fait. C'est le Québec qu'on est quand même en train de fabriquer. Là, ça ne se résume pas à la question constitutionnelle. C'est le Québec qui se fabrique. Demain matin, c'est ceux qui feront, qui habitent ici, qui feront ce que c'est le Québec de demain matin. M'intéresse. Avec ça vient un intérêt pour la langue, donc pour la langue française, mais dans le cas aussi pour l'Inuaimun, dans le cas si c'est pas le propos du film, j'avais d'abord écrit une réponse moi-même à la violence de l'archive, qui est violente de deux façons, à la fois dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle ne dit pas, donc à cette violence-là, moi j'avais écrit une réponse que je trouvais un peu boiteuse, que je trouvais qui me satisfaisait pas, je l'ai réécrit, puis à un terme, je me suis dit, je vais demander une parole qui, elle, sera juste. Donc, j'ai demandé à Joséphine Bacon si je pouvais prendre des extraits d'un de ses recueils. Et puis, si elle voulait les lire pour répondre, c'est justement à la violence de l'archive. Le dispositif du film fait qu'elle interrompt le film, le coupe au noir. Et puis, c'est sa parole qui le redémarre, qui lui redonne une impulsion avec des images nouvelles ou avec des images qui sont revues d'un angle différent. Donc, il y a un split screen. Là. Puis, l'idée, c'est de rejouer une autre perspective. Donc, une autre capacité de nommer le monde. Tu sais, la question de la langue, elle est cruciale parce que c'est à la fois très intime, d'une capacité à s'approprier des parts du monde, et profondément collective parce que c'est un espace aussi partagé. C'est un espace d'accès à l'universel, c'est un aspect au commun, la langue. Donc, évidemment, les langues autochtones ne vivent pas le même contexte que le français ou l'anglais. Là. D'ailleurs, c'est pour ça que je les traite différemment dans le film. Mais je voulais en rendre compte aussi.
Et est-ce traiter la question autochtone, tu as un peu répondu à cette question-là, mais est-ce que ça a été un défi pour toi?
Bien, en fait,
tant qu'indépendantiste de gauche,
moi je pense qu'il est grand temps que nous additionnons nos nécessités et nos légitimités. Je pense que les questions de pérennité de la langue et d'un minimum de continuité culturelle pour être libre, là, pour que fasse sens les mots qu'on possède, et je pense que c'est crucial. Et c'est d'autant plus crucial dans le contexte autochtone où ils ont souffert ce dont on cite et dont ils ont souffert. Et ils ont des défis contemporains où c'est important. Et puis, je pense qu'ils ont des nécessités qu'ils expriment d'ailleurs, qu'on devrait écouter. Pour moi, l'idée d'indépendance, c'est quand même aussi un axe pour additionner. C'est un axe pour additionner un ensemble de nécessités pour que demain matin, notre société soit mieux. Hein,
Et est-ce que c'est pour ça que le film prend la forme d'un dialogue?
Ces deux pulsions, pour moi, l'homme et la femme participent d'un même territoire ou sont deux revers d'une même médaille avec une pulsion peut-être plus sereine, plus de résistance, une pulsion plus sombre, plus nihiliste chez l'homme. J'ai l'impression que ces deux pulsions qui m'habitent et je crois qui traversent aussi en partie l'inconscient québécois.
Ces dialogues-là sont absolument magnifiques, sont habités par une belle poésie qui nous fait même voir des images qui n'apparaissent pas à l'écran. C'est ce que nous-mêmes, on en vient à projeter. Comment as-tu abordé l'écriture du scénario et comment s'est-il adapté à la production du film?
Ça a été un scénario que j'ai écrit vraiment de façon très libre, sans avoir nécessairement du cinéma en tête. J'avais envie je savais que je voulais faire des stations, là, tu sais, donc quelque chose d'assez déambulatoire. Le scénario était très extensif. Il en reste dans le film à peu près la moitié. Je n'ai coupé beaucoup, parce que déjà qu'il y en a beaucoup. J'en ai coupé beaucoup. Puis c'était de façon... Il y a beaucoup de références aussi que j'ai choisi volontairement de taire parce que ça aurait fait un système assez lourd à partager puis assez lourd à recevoir. Il y a plein de petites références un peu partout. Beaucoup de Jacques Ferron, il y a plein de petites choses, mais ça, il y a des références historiques, c'est pas très intéressant au final dans le caractère déambulatoire d'avoir l'exactitude de ces références-là. Puis d'autant plus que c'est des références qui sont pas, c'est pas une thèse de doctorat, là, c'est très capricieux parce que ça naît de l'affection. Donc c'est un scénario qui s'est fait de façon déambulatoire, il ressemble au film en fait, le film, paradoxalement, aussi libre a été sa fabrication, le film ressemble au scénario aussi. On s'en sort pas, hein. C'est étrange.
J'ai l'impression que quand vient le temps d'aborder le cinéma d'animation, on évoque rarement le travail des acteurs, les voice actors, comme disent les anglophones, sauf quand il s'agit de vedettes. Évidemment, si on a Robin Williams qui fait la voix du génie dans Aladdin, on le mentionne. C'est opéré ce travail pour Archipel, qui me semble central.
C'est d'abord Myriam Charles et moi qui faisions la... Myriam, qui est une cinéaste et puis une amie, dont je produis le premier long-métrage et qui... On vient de verrouiller le montage et c'est super pour les auditeurs. Ils peuvent être attentifs, ça va être super. Donc c'est Myriam et moi qui faisions la voix. Myriam est très bonne, moi je suis très mauvais, donc moi je me suis dit il va falloir que je me change, là. Puis Myriam est très très bonne, mais comme c'est une non-actrice comme moi, elle module pas beaucoup, tu sais. Comme j'étais plat, puis j'avais de la difficulté à m'entendre. Mais malgré sa très belle diction et sa très belle voix, Myriam, peut-être que l'intérêt un peu à 40 minutes tombait un peu. Donc on a, d'un commun accord, on a passé la rondelle à des acteurs professionnels. Florence Blain-Mbaye, puis Mathis Savard-Verhoeven, qui eux, c'est leur métier, ils sont bons, et puis ils sont capables justement de faire davantage de modulation, des intensités variables, des rythmes différents. C'est leur métier.
Et leur a-t-il accordé une place à l'improvisation à eux aussi?
Non, dans ce cas-ci, c'est comme c'est en plus de mon texte, j'ai monté presque chaque syllabe est montée. Je monte sur des T, là, puis les D, puis les consonnes dures, puis je fais ça moi-même avec obsession. C'est l'aspect contrôle a repris possession du film. Peut-être parce que ça en a été dès le départ la première architecture, la première structure. Puis moi, j'ai d'abord monté les dialogues et puis habillé ensuite cette structure sonore-là de différentes images, puis faisant les inversions qui s'imposaient, puis les coupes qui s'imposaient. Mais c'était ma première structure, donc peut-être que j'y suis resté assez attaché, même si elle a beaucoup évolué.
Par rapport au scénario, là, c'est peut-être moi qui joue au geek, mais est-ce qu'il y a un plan éventuellement de le publier, peut-être pour qu'on puisse y revenir et peut-être s'adonner au jeu de repérer les références qui s'y cachent?
Il y avait un projet, en fait, et puis j'ai refusé parce que... de deux choses. Je trouve qu'il manque quelque chose pour que ça soit un texte littéraire. C'est pas un projet littéraire. Il y a comme quelque chose qui fonctionne avec l'image. Et puis j'ai... Au sortir d'une production comme ça, j'ai plus beaucoup de choses à sortir. Moi, je suis pas capable de réécrire ou de compléter ça. C'est-à-dire que j'ai rien. On avait eu la même question sur Villeneuve. On avait eu un projet de publier un livre un peu pas roman graphique, mais un peu comme une suite. Il y a quelque chose qui aurait fait suite au film avec des images, tout ça. Puis j'ai abandonné le projet parce que une fois que le film est terminé, c'est comme s'il y a tout un espace qui est épuisé. C'est personnel. Après ça, je ne sais pas qu'est-ce que je réécrirais dans la suite d'Archipel, par exemple. J'ai comme tout donné ce que j'avais à donner là, puis j'ai plus de jus. Donc, je me suis dit... Puis je trouve que le texte n'a pas de... c'est pas un projet littéraire en soi. Donc, qui est d'abord un littéraire, je ne sais pas, j'ai comme une pudeur, je ne sais pas. Peut-être mal placé, mais peut-être bien placé aussi.
Archipel est un film très québécois qui a été présenté dans de... multiples festivals internationaux. La première mondiale est à rien de moins qu'à Rotterdam. Comment a-t-il été reçu à l'étranger?
Ce qui est étonnant, moi, je pensais faire un film très intime, hein, parce que très québécois, très local. Je crois que le sentiment qu'il essaie de cerner est visiblement est assez partagé. C'est un film qui a eu, en effet, une belle diffusion en festival. Sinon, parce que la sortie ici a été assez difficile. Le box-office est plutôt coriace. C'est coriace pour plusieurs films, cela dit. Mais... il a été reçu, en toute honnêteté, c'est assez polarisé. Hein? Il fonctionne très, très bien en festival. Il y a des gens qui trouvent ça trop intello et trop bavard. C'est vrai que c'est un peu intello, là, puis c'est un peu bavard. Puis il y a d'autres gens qui retrouvent beaucoup de ressentis de leur localité à eux, en fait, de leurs souvenirs. Parce que c'est vrai qu'une colline, une grand-mère, une montagne, puis le caractère instable et incertain du passé qui cohabite avec le présent et puis tout ça, c'est quand même un sentiment général. C'est-à-dire, tout le monde peut ressentir cette... C'est un espace, je crois que le film, par sa liberté de forme, peut recevoir aussi les appréhensions de différentes personnes. Donc, c'est... Moi, ça a été vraiment un cadeau, ça, le fait que le film circule bien. Je pensais que ça allait être un truc très intime, parce que très local.
Oui, mais c'est peut-être en étant très canalisateur, d'une façon. Et là, je me rends compte qu'on utilise les termes géographiques depuis tantôt, les repères, le canal. C'est cette façon à laquelle ça permet au film d'aller de l'intime à l'universel. Et donc, il peut être lu par un spectateur ou une spectatrice qui n'a que très peu de connaissances de la situation québécoise, si on peut l'appeler ainsi.
Puis les pulsions, les désirs, les doutes, il y a quelque chose de commun là, dans le sentiment d'appartenance, dans ses paradoxes, dans ses forces et ses faiblesses, là, disons, là, puis dans ses défis, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... Et puis, je pense, ce que je voulais rendre compte aussi, ce dont je voulais rendre compte, c'était aussi qu'il y a quelque chose de très actuel dans la virtualité de nos appartenances. C'est-à-dire que le territoire n'est plus le même parce qu'il y a toute une part qui est virtuelle, une part qui est concrète. Là, on est assis face à l'autre. Puis, il y a une part aussi de par notre accès à l'information, de par les images qui circulent, de par nos représentations de plusieurs choses, qui est très virtuelle. Donc, et puis, l'animation, c'est un espace... virtuel, c'est un espace qui a une forte tendance à l'abstraction, c'est un espace d'artifice. Il peut rendre bien compte de ces choses-là.
Parce que d'une certaine manière, le territoire a toujours été virtuel. Oui, on peut le centrer géographiquement sur une carte, le délimiter, mais il se construit autour d'idées. C'est une construction discursive.
Tout à fait. D'idées, de mots, d'histoires qu'on se raconte, de récits qui évoluent. De violence aussi, c'est un espace. Le film Archipel en parle un petit peu, mais tu sais, il y a quelque chose de très violent aussi, de très de brutal dans le déploiement de l'histoire. Tu sais. Puis ça nous ramène un peu à la question autochtone. C'est en essayant d'y réfléchir, en essayant de nommer les choses, mais en permettant surtout que les autres nomment les choses, nomment le monde. On en parlait un petit peu tout à l'heure, en laissant de l'espace pour ça nous permet justement d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on avance tout le monde ensemble. Moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on additionne nos nécessités, il faut qu'on additionne les besoins. Dans une société prospère et privilégiée comme la nôtre, ça devient presque une responsabilité là, de mieux faire.
Moi, une de mes impressions, c'est que Archipel pose une question sans y apporter de réponse claire. Alors, à mon tour de la poser. En 2021, qu'est-ce que c'est la nation québécoise? Qu'est-ce que c'est, disons, le territoire québécois?
Ça demeure une espèce... J'ai pas de réponse universelle, mais je réponds pour moi à titre personnel. Même si moi, je suis très attaché à la question de la souveraineté, n'en demeure pas moins que l'enjeu n'est pas que constitutionnel. C'est un enjeu de prendre en charge notre avenir, le destin, décider ou non si nous souhaitons être une société d'expression francophone. C'est encore une décision qui est sur la table. Elle n'est pas prise, en fait, collectivement encore. Même chose pour la question autochtone, c'est qu'est-ce qu'on est capable de regarder ce passé-là en face puis d'entendre les besoins qui, puis en plus, ils sont audibles parce qu'ils ressemblent en partie aux nôtres aussi. Une volonté de vivre dans une langue avec une continuité, une forme de continuité culturelle, une forme de souveraineté. Il va falloir y penser à l'autonomie. En tout cas, je laisserai les principaux intéressés l'affirmer, mais il y a des enjeux qui sont communs. Donc moi, pour moi, ce que je souhaite au Québec de demain matin, ça va être un souhait plutôt ma réponse, c'est de prendre en compte la part d'autonomie qu'on nous avons gagnée par le temps, autonomie politique, autonomie qui n'est pas complétée, autonomie économique, ça, qu'on a fait un grand pas, d'en assumer la responsabilité, et puis de prendre en charge, donc c'est prendre en charge dans ce cas-là de difficile et d'autonome et de libre et aussi des contraintes, prendre en charge notre destin collectif. Ça me semble être une belle façon de répondre aux défis contemporains, qu'ils soient sociaux ou écologiques.
Et peut-être aussi apprivoiser le passé parce que, bon, il nous rattrape toujours, on le voit dans l'archipel, on ne s'en débarrassera pas,
que ce soit
par l'héritage ou la tradition. Oui, effectivement.
Il y a quelque chose qui se rejoue parce que nos représentations n'ont pas changé. Si on ne change pas certaines représentations et certains rapports à soi et aux autres, si on ne change pas ça, il y a quelque chose qui se rejoue toujours, puis on retombe dans des mêmes ornières. C'est pas un podcast politique, mais c'est quand même étonnant qu'on soit encore, par exemple, à mettre sur le dos de certaines minorités notre incapacité à s'affirmer. Il y a une confusion complète quand interdire, par exemple, à des éducatrices en garderie de porter le voile, c'est compris comme une affirmation identitaire. C'est une confusion quand même assez grave, à mon sens.
Oui, absolument. Il y a toujours des tensions quand vient l'heure de vivre ensemble.
Tout à fait.
Parce qu'on veut un consensus, mais il n'a pas lieu d'être.
Puis on ne peut pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. On ne peut pas s'assumer comme majorité, comme francophone, disons, au Québec, sans en avoir à payer le prix. Puis en porter les charges et la responsabilité.
On en parlait un peu. Le Québec ne peut pas éternellement jouer la victime au cœur du Canada et de l'Amérique du Nord.
Non, c'est ça. Mais non, d'ailleurs, on n'est plus les victimes. C'est fini. C'est-à-dire que si on n'a pas franchi le seuil, disons, politique, n'en demeure pas moins que le rattrapage économique a été inouï et que tous les outils sont là. Il suffit de les saisir. Et donc, toute la responsabilité aussi nous revient.
Et ce qui confirme ça, c'est sur le plan international, la place qu'occupe le cinéma québécois à l'étranger. Est absolument extraordinaire. On pensait au départ qu'il y a quelques années, en fait, il y a même plusieurs années, que ce serait le mode passagère. On parlait d'une nouvelle vague. Et non, finalement, c'est un cinéma national qui s'est implanté, du moins dans la scène festivalière. On ne s'étonne plus de voir un film québécois à Cannes, à Venise, à Rotterdam. Ça vaut la peine d'être célébré, évidemment, quand ça arrive, ces sélections-là. Mais c'est plus...
C'est plus une exception, puis c'est peut-être plus un sursaut temporaire. Il y a quelque chose de... Ben c'est comme la littérature. Hein. Il y a une littérature québécoise, il y a de la bande dessinée, il y a plein... Je pense que changer nos représentations, c'est aussi voir à quel point on a des outils, pour faire valoir une partie de notre autonomie déjà, puis en prendre la responsabilité. Moi, ça serait ma...
Des outils pour l'avenir que tu utilises toi-même déjà, puisque tu travailles présentement sur ton prochain long-métrage. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Avec grand plaisir. C'est un film dont le financement québécois-canadien est complété. On attend la portion internationale. C'est une coproduction avec la France et le Luxembourg. C'est une fable tragique sur la violence politique. Donc, c'est un peu Les Justes d'Albert Camus qui rencontre Alice au Pays des Merveilles, mais dans le Québec de demain matin. Donc, l'irruption de la violence impossible dans le monde mêle la matière du réel un peu à mal, puis il y a du fantastique aussi dans le film. C'est l'histoire des jeunes qui, après un attentat raté, la protagoniste principale s'enfuit en forêt, puis se fait poursuivre, et là, il y a des rencontres qui lui, un peu fantastiques, qui la force à revisiter tous ses choix moraux, et c'est la séquence des événements. C'est un film plus narratif, beaucoup plus narratif qu'Archipel. J'espère qu'on sera capable de conserver une certaine liberté aussi dans sa fabrication. Moi, je suis en pré-production, là, je fais l'animatique ici dans nos studios. Puis on rentre en production en début d'année prochaine, normalement.
Tu évoquais, parce que là, tu parles de la production, tu évoquais qu'il y avait quelque chose de particulier à travailler sur Archipel durant la pandémie de la COVID. Mais j'avais un peu l'impression que, en fait, tu décrivais le travail de tout cinéaste d'animation. Il y a une part de... Autant c'est un travail d'équipe que tu as d'ailleurs souligné à la première du film au FNC en faisant monter toute l'équipe sur la scène, ce qui était vraiment un beau geste à leur faire. Mais c'est un travail aussi qui est solitaire, j'imagine.
Il y a une partie d'isolement là, dans l'animation, mais il y a une belle dynamique de studio. Puis aussi, moi, ce qui me plaît de penser dans Archipel, c'est que c'est un film qui n'existe que par les gens qui l'ont fait, au moment où on le fait. C'est-à-dire que je ne peux pas le refaire, ce film-là. Il y avait des gens disponibles qui ont pris 2 ans, 1 an et demi de leur vie ici à Montréal parce que c'est une expertise avec Concordia, le Cégep du Vieux-Montréal. C'est un film qui existe parce que les gens étaient là au même endroit, au même moment pour une certaine période de temps. Puis c'est un cadeau, ça. Moi, la vraie richesse, moi, c'est comme, tu sais, en fait, les acteurs sont importants parce qu'ils sont visibles, audibles et audibles en cinéma d'animation. Mais moi, ma vraie richesse, c'est les animatrices, les animateurs. Tu sais, c'est sur eux que repose toute la structure du film. C'est eux la vraie richesse d'un studio. Puis la dynamique de studio est chouette. Tu sais, c'est-à-dire que c'est à la fois très posé, parce que c'est silencieux. Puis à la fois, ben, on joue quand même au ping-pong et on mange des gâteaux, là.
Et c'est peut-être plus facile de respecter les distances quand chacun est à sa table à dessin ou en jouant au ping-pong.
Ouais, exactement.
Félix Dufour-Lapérien, merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien avec nous, le podcast de 24 images. Archipel est toujours en salle et je dois le dire, ce film mérite d'être vu sur grand écran. C'est une expérience audiovisuelle hors du commun à ne pas manquer.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était donc Simon Lapeyrière en entretien avec Félix Dufour-Lapeyrière, dont le film Archipel est actuellement en salle. C'était tout pour nous cette fois-ci. Nous, on se retrouve bien entendu dans 2 semaines pour un nouvel épisode du balado de la revue de cinéma 24 images. Merci d'avoir été à l'écoute et d'ici là, bon cinéma.
La vie tranquille de l'île Perrot contraste étrangement avec celle de l'île de Montréal, sise au pied du Mont-Royal. Le commerce et l'industrie fleurissent dans la métropole du Canada, surnommée le Paris du Nouveau Monde. Bien qu'on y parle aussi l'anglais, Montréal est la 2e ville de langue française de l'univers.
L'univers.